8h48, on accueille Valérie Beaudoin, qui est chercheure associée à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Exceptionnellement, encore une fois, un samedi plutôt qu'un dimanche. On va se parler demain aussi. Mais pour une raison fort simple, on sait que Brett Kavanaugh sera confirmé aujourd'hui par vote, mais il n'y aura pas de surprise, là.
Bon, à moins, il peut toujours en avoir une, mais ça devrait être une formalité cet après-midi, sa nomination. Brett Kavanaugh, bon, qui fait la manchette, là, entre autres, depuis 2 semaines, mais ça fait plus longtemps que ça. Une nomination que Trump tenait tellement, tellement à la nomination de Brett Kavanaugh, et ça devrait être confirmé dès cet après-midi qu'il sera le nouveau juge à la Cour suprême.
Bon, c'est autre chose qu'il faut expliquer. C'est nommé par des politiciens. Oui. Les juges sont là pour longtemps. Et il y a un enjeu quand même. Ce serait le deuxième juge à la Cour suprême. Ça fait quoi, 2 ans que Donald Trump est président? À un peu moins de 2 ans.
Oui, tout à fait.
Où il réussit à nommer un juge à la Cour suprême. Ça, c'est un effet à long terme là, sur les politiques de la Cour suprême.
Exactement, parce que les juges à la Cour suprême aux États-Unis, c'est extrêmement prestigieux. C'est une nomination à vie. Et vraiment, c'est eux qui décident d'interpréter la Constitution. Et ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Et en ce moment, avec Brett Kavanaugh qui va être nommé, la majorité va être conservatrice. Alors, ce qu'on a peur, c'est le droit à l'avortement, oui, tout ce qui entoure le droit des femmes, le droit au mariage homosexuel, tout ce qui entoure les armes à feu. Alors vraiment, on a peur que ça puisse changer la face des États-Unis, parce qu'il y a déjà des débats, c'est déjà divisé en ce moment là aux États-Unis. Est-ce qu'on veut revisiter, exemple, la décision sur le droit à l'avortement? Non, mais si on décide de le faire, il y aurait des chances que ça puisse passer.
Bon, ça, c'est pas fait. Je sais qu'il y a un débat, puis c'est l'argument des démocrates aussi beaucoup, là, en disant on va rouvrir une loi qui pourtant, une décision de la Cour suprême qui a été prise en 73, vieille de 45 ans, et qui pourrait interdire à nouveau l'avortement aux États-Unis. Mais ça, il n'y a rien d'indiqué.
Non, exactement. Et pendant les étapes de sa confirmation de Brett Kavanaugh, il a dit, bon, ben, écoutez, moi, je respecte ce qui a été fait par le passé. Il laissait transparaître qu'il n'allait pas revisiter ça. Je pense pas qu'on ne se mettrait à interdire l'avortement, mais on pourrait limiter dans certains cas ou dans certains États permettre des restrictions. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'était bloquer cette nomination-là pour pas changer la face de la Cour suprême.
Parle-moi de le vote hier, on savait que c'est entre les mains là, de 2-3 sénateurs, oui, dont 2 républicains, là, 2-3 qu'on n'était pas sûrs, là, dont Suzanne Collins du Maine.
Oui.
Parle-nous d'elle.
Alors, Suzanne Collins, elle a laissé un peu le suspense à 3h hier après-midi, a finalement dit, après un très, très long discours, qu'elle allait voter en faveur de Brett Kavanaugh. Suzanne Collins, qui est républicaine, mais qui a tendance à voter en fonction là, de son opinion personnelle, pas nécessairement pour suivre la ligne de parti. Et là, en ce moment, les conséquences sont majeures. 3 millions de dollars qui ont déjà été amassés pour sa prochaine opposante ou opposant en 2020. Alors vraiment, il y a un mouvement qui était déjà là depuis le mois d'août pour l'inciter, je dirais, à voter contre Brett Kavanaugh. Et là, les organisateurs politiques disent qu'il y a un don aux 3 secondes en ce moment sur le site. Seulement pendant le temps de son discours, on a amassé 50 000 $. Et là, il y a Susan Rice. Susan Rice, c'est l'ancienne conseillère à la Sécurité nationale sous Obama. C'est également celle qui était ambassadrice à l'ONU. Elle a dit sur Twitter, elle a un peu levé la main en disant « Je pourrais être celle qui opposerait Suzanne Collins pour être une candidate démocrate en 2020. » Alors vraiment, là, les conséquences de ce vote-là vont continuer de se faire sentir.
Ce qu'elle a dit, Suzanne Collins, hier, elle a dit « Je crois qu'elle a été victime, mais je suis pas capable de prouver que c'est Brett Kavanaugh qui a fait ce qu'elle aurait vécu dans le passé. »
Exactement, elle a dit la présomption d'innocence, il n'y a pas de preuves, on n'a pas pu corroborer les propos de Mme Blasey Ford. Et je crois vraiment que Brett Kavanaugh va être un juge assez impartial, qui va être indépendant, qui va être plus centriste que ce que l'on croit. Alors elle n'avait pas le choix, en pleine conscience, de dire que Brett Kavanaugh était le bon candidat pour les républicains.
Mais c'est une joke cette enquête-là du FBI. Honnêtement, les démocrates se sont un peu peinturés dans le coin aussi, là, soyons honnêtes.
Oui.
Mais de mandater une enquête aussi importante sur même pas une semaine.
5 jours à peine environ.
Sur des histoires aussi, sur des allégations aussi graves. Est-ce qu'on est surpris du résultat?
Mais les démocrates l'ont dit depuis le début. Écoutez, comment vous allez pouvoir avoir des conclusions importantes après seulement 5 jours quand la victime alléguée n'a même pas été rencontrée par le FBI et la personne qui est accusée, Brett Kavanaugh, n'a pas été rencontrée par le FBI. On s'est fié seulement aux témoignages qui étaient là. C'était très restreint parce que c'est une enquête de type background check, là, une enquête d'antécédents et non une enquête criminelle. Mais là, le point qui est intéressant, c'est que les démocrates, s'ils prennent le contrôle de la Chambre, à l'élection de mi-mandat dans un mois, eux, ce qu'ils ont indiqué, c'est qu'ils allaient rouvrir une autre enquête, publique cette fois-ci, pour creuser encore plus le dossier Brett Kavanaugh. Ça voudrait dire qu'on aurait une enquête de ce juge qui serait maintenant à la Cour suprême.
Mais s'il est nommé, est-ce que, bon, l'enquête, admettons, on spécule, l'enquête au bout arrive, puis les démocrates ont pris la chambre, puis ils rouvrent l'enquête, puis on se rend compte que les allégations de Mme Blasey Ford et des autres plaignantes sont véridiques. Est-ce qu'ils peuvent le dégommer?
Ils peuvent le destituer. Le processus de destitution est pour les juges à la Cour suprême également. Alors, ça fait partie aussi des discussions. Oui. Depuis que Brett Kavanaugh, même son nom a été prononcé, les démocrates ont pensé qu'il pourrait y avoir une destitution. C'est d'ailleurs pourquoi en 2020, lors de l'élection du prochain président, soit Donald Trump ou quelqu'un d'autre qui sera réélu ou élu, alors on a dit, faut pas que les démocrates prennent le contrôle parce que non seulement il pourrait avoir une enquête, mais il pourrait avoir destitution de Brett Kavanaugh si on a le contrôle même au niveau de la présidence.
Autre élément cette fois, et toujours en lien avec ça, parce que le vote a lieu cet après-midi. Oui. Et il y a le sénateur du Montana, lui, qui doit marier sa fille. Est-ce qu'il va être là, finalement?
C'était
l'autre. S'absenter.
En fait, il a dit, c'est sûr que je marie ma fille. Si j'ai besoin de quitter avant la réception, je vais le faire. Je vais prendre un avion, je vais partir du Montana pour être à Washington, parce que pour voter, les sénateurs doivent être présents dans la salle. On peut pas le faire à distance. Mais finalement, comme on a assez de votes, on aurait donc 50 votes pour, 48 contre, ça passe. Eh bien, il a dit, je vais profiter de la soirée, je vais pouvoir être là pour marier ma fille et je vais être assurée d'un autre côté, que Brett Kavanaugh va bel et bien être nommé à la Cour suprême. Lui avait déjà dit, j'ai aucun problème à rater la réception. Je pourrais dire que dans ma vie, dans la même journée, j'ai marié ma fille et j'ai nommé un juge à la Cour suprême.
Et on pense que Sarah Palin pourrait revenir, reprendre du service en réaction au vote de la sénatrice de l'Alaska.
Alors, les rebondissements dans ce dossier-là, Sarah Palin hier sur Twitter qui a dit, en interpellant la sénatrice Murkowski, qu'elle est une républicaine qui vote contre Brett Kavanaugh. Alors, de l'Alaska, donc de l'endroit d'où Sarah Palin vient, elle a dit « Je peux voir 2022 de ma fenêtre ». 2022,
bon, elle voit bien les affaires de sa fenêtre, elle voit la Russie, puis elle voit la 2022.
En référence à ce qu'elle avait dit lorsqu'elle était pressentie pour être vice-présidente des États-Unis. Elle avait dit, bon, on s'était moqué pendant des mois de ça. Et là, elle a un peu, pour ridiculiser un petit peu la chose, dit, mais écoutez, en 2022, quand elle va être en réélection, cette républicaine-là, pourquoi pas, je pourrais peut-être me présenter. Alors, elle aussi, elle a ouvert une certaine porte en se disant, mais écoutez, c'est pas une vraie républicaine. Elle a voté contre un candidat du président des États-Unis, un candidat qui était parfait pour nous, les républicains. Alors, c'est une honte. Et d'ailleurs, là, les républicains se déchaînent contre cette femme-là actuellement là, sur Fox News, sur les réseaux sociaux, en se disant bon, qu'elle avait trahi son parti parce qu'il y a un démocrate, lui, qui vote pour Brett Kavanaugh. Oui. Et on dit que lui est plus républicain qu'elle. Bon, alors, la guerre n'est pas terminée entre...
Mais tu sais, on a souvent dit... Tu parlais tantôt de la sénatrice du Maine, là, Susan Collins.
Oui.
On a souvent dit que du nord des États-Unis, les républicains sont souvent plus démocrates que les démocrates du sud des États-Unis. Là.
Ah oui. Dans certains cas, il y a certains démocrates actuellement qui sont plus dans la ligne, je dirais, de droite que de gauche.
OK. Merci beaucoup, madame.
Merci.
On se retrouve demain.
Avec plaisir.
Valérie Beaudoin est avec nous. Elle est chercheure associée à la chaire Raoul d'Endurant.